Prime 2015. Swing Time, le magazine du jazz de Swing FM, 101.2, la radio du Hot Club de Limoges. Et aujourd'hui, Swing Time préparé et présenté par Jacques Rivière. Bonjour Jacques.
Bonjour Martine.
Alors aujourd'hui, spécial, une spéciale.
Jimmy Mundy.
Est-ce que tout le monde connaît Jimmy Mundy?
Oh, peu de gens.
Peu de gens, c'est pour
c'est
ça
bien
que
pour ça
vous
que
en parlez aujourd'hui.
Ce musicien.
Allez, c'est parti.
Donc oui, aujourd'hui, je voudrais parler de ce musicien, Jimmy Mundy, dont malheureusement, même les amateurs les plus chevronnés parlent peu souvent. Jimmy Mundy est un des plus grands arrangeurs de l'histoire du jazz, aux côtés de Duke Ellington, Benny Carter, Cy Oliver et Fletcher Anderson. Il est né le 28 juin 1907 à Cincinnati, dans l'Ohio. Il était le fils d'un chanteur baryton qui jouait également de la mandoline et du violon. Il commence à apprendre la musique à l'âge de 6 ans avec sa mère qui lui donne ses premières leçons de violon. À l'âge de 12 ans, il effectue une tournée avec un orchestre évangéliste dirigé par Gene Wilson Becton dans lequel il joue de divers instruments. Il apprend en effet, outre le violon, à jouer de la trompette, du trombone, du piano, de la contrebasse et du saxophone, pour finalement opter pour le saxophone ténor, doublant à la clarinette et au soprano. La connaissance technique de tous ces instruments lui servira plus tard pour écrire ses arrangements. En 1926, il se rend à Washington, D.C. et entre dans l'orchestre des White Brothers, qui comprenait Eddie au piano, Harry au trombone et Sparks au sax. Plus tard, l'orchestre est repris par le batteur Tommy Miles et joue dans un nightclub, les Crystal Caverns. C'est là qu'un soir, le pianiste Earl Hines, de passage, entra dans le club et entend un arrangement que Mundy avait écrit, Cavernisme. Earl étant enthousiasmé, Jimmy lui propose aussitôt 5 arrangements pour $5 chacun. Amusé, Earl l'engage alors dans son orchestre comme saxo-ténor, car Earl dira plus tard « c'était un très bon saxo-ténor ». De son côté, Jimmy devait déclarer « ce fut mon passeport pour le Grand Terrace de Chicago au début de 1933 ». Contrairement à ce qu'affirment les différents dictionnaires du jazz et le « Who's Who » de John Chilton, Mundy déclare encore « le seul orchestre dans lequel j'ai travaillé à Chicago était celui d'Earl Hines ». Il n'a remplacé personne chez Earl Hines, il est venu renforcer la section de saxophone, l'apportant à 4 alors qu'elle n'en comprenait que 3. Le premier arrangement de Mundy enregistré est le fameux Cavernisme qu'Earl avait entendu à Washington et qu'il avait décidé d'engager Jimmy. Nous possédons 2 versions enregistrées de cet arrangement par l'orchestre d'Earl Hines, une le 13 février 1933, l'autre le 13 septembre 1934. Cavernisme est un thème de 32 mesures avec un pont qui comprend 5 chorus avec une introduction et une coda. On y entend, outre un solo du chef, un demi-chorus de trompette par Walter Fuller, suivi d'un demi-chorus de trombone par Tommy Young, dont ce doit être le premier solo enregistré, et un magnifique chorus de violon par Darnell Howard, chose rare qui nous donne une idée de la valeur de ce musicien réputé sur cet instrument alors qu'il est plus connu comme clarinettiste. Nous écoutons Cavernisme, la version de 1934. Thank you. Jimmy Mundy a surtout été influencé par ses deux solistes préférés, Louis Armstrong et Coleman Hawkins. L'orchestre d'Erlines était si merveilleux qu'il servait d'exemple à de nombreux grands orchestres. Jimmy raconte « Nous étions toujours quatre sax quand j'étais là. Plus tard, quand Earl engagea un saxo-bariton régulier, chaque grand orchestre se mit à avoir cinq sax. Idem lorsqu'il passa de deux à trois trombones. Les autres en voulurent trois également. Ce fut quand j'écrivis « Fat Babes » pour mettre en valeur notre section de trombone et quand nous l'enregistrâmes qu'il fallut presque toute la séance pour que ce soit au point. Enregistré le 12 septembre 1934, Fat Babes est un 32 mesures avec un pont, composé et arrangé par Jimmy Mundy. Le premier chorus d'ensemble est suivi de 4 mesures d'interlude qui introduisent le chorus d'Erlines, puis c'est le fameux chorus joué par le trio de trombones. Viennent ensuite un chorus d'ensemble avec intervention de Walter Fuller à la trompette et un demi-chorus de riff pour terminer, accompagné par Wallace Bishop à la batterie qui redouble de swing. Nous écoutons Fat Babes. Erlines raconte « Quand c'était un numéro vocal, je disais au gars de l'orchestre de me surveiller à la direction. Mais quand il arrivait le moment pour la danse, je devais me mettre d'accord avec le batteur, élément fondamental. N'impose pas le tempo, lui disais-je. C'est au public et au numéro de danse de l'imposer et à toi de le garder. » Quelques nuits, les danseurs ne sentaient pas les tempos rapides et je devais alors toujours avoir à l'esprit les arrangements. Je disais à des arrangeurs comme Jimmy Mundy de faire des arrangements flexibles afin que le feeling demeure si nous devions changer le tempo. Nous allons terminer avec l'orchestre d'Earlines avec une composition d'Earl arrangée par Jimmy Mundy et enregistrée le 13 septembre 1934, Rock and Rye. Un morceau de 32 mesures classiques avec un pont. L'interprétation contient surtout des ensembles. Elle se compose de 8 mesures d'introduction suivies d'un chorus d'ensemble, puis 4 mesures d'interlude par les trombones, introduisant un chorus par les saxophones dont le pont est joué par un trompette non identifié. Le chorus suivant est joué pendant les 16 premières mesures par les trompettes bouchées, puis le pont joué à l'alto par Homer Simon, qui continue pour les 8 dernières mesures avec les trompettes bouchées. Vient ensuite un chorus de trompette par Walter Fuller, sauf le pont, qui lui reste, semble être joué par un trompettiste différent, peut-être George Dixon. Enfin, après 4 mesures d'interlude, un chorus d'ensemble dont le swing de la section rythmique va croissant. L'interprétation se termine par une coda de 8 mesures. Nous écoutons Rock and Rye. Earlines raconte encore, Jimmy Mundy était le type de copain toujours jovial, mais très sincère dans son travail d'arrangeur. Et il en tira une belle carrière. Il avait aussi l'habitude de tomber amoureux chaque soir et nous devions le surveiller constamment. Avant d'entrer chez Benny Goodman, Il nous écrivit de merveilleux arrangements. Le background qu'il trouva pour trois clarinettes et un ténor sur « Everything Depends on You » était admirable. Quand il abandonna le ténor pour se consacrer aux arrangements, nous perdîmes un très bon saxo-ténor. En 1936, Jimmy Mundy quitte l'orchestre d'Erlines et devient, de 1936 à 1939, le principal arrangeur des orchestres de Benny Goodman et du batteur Gene Krupa. Il est difficile, bien sûr, après l'orchestre d'Erlines, d'écouter celui de Benny Goodman. Toutefois, nous écouterons une interprétation, car l'arrangement est intéressant. Il s'agit de Organ Grinder's Swing. Enregistré le 7 octobre 1936, il y a peu de solos. Seulement deux interventions d'une trompette qui est peut-être Ziggy Ellman, puis brièvement Benny Goodman à la clarinette, et enfin un saxo-ténor, vraisemblablement Vido Musso. Nous écoutons Organ Grinder's Swing. L'arrangeur préféré de Jimmy Mundy est Cy Oliver. Il place très haut Benny Carter, mais ce qu'il écrit est trop complexe pour qu'il cherche à s'en inspirer. Il aime les arrangements simples. En novembre 1939, il forme son propre orchestre qui comprend de bons musiciens, mais peu de vedettes. Les plus connus sont Jimmy Hamilton et Skippy Williams au sax, Bill Doggett au piano et Shadow Wilson à la batterie. Malheureusement, un succès commercial insuffisant l'oblige à dissoudre l'orchestre deux mois plus tard, en janvier 1940, après avoir joué à l'Onyx Club et au Kelly's Stables. Il nous reste quatre interprétations de cette formation enregistrées à New York le 19 décembre 1939. Il écrit alors de nouveaux arrangements pour divers orchestres, dont Benny Goodman, Paul Whiteman et surtout Count Basie. Hugues Panassier, qui a eu le plaisir de rencontrer et d'interviewer Jimmy Mundy en 1948, rapporte qu'il avait une merveilleuse oreille et que sa mémoire était phénoménale. Il se souvenait de la moindre note de n'importe lequel de ses arrangements. Un exemple de cette mémoire est la façon dont il écrivait ses arrangements. C'est toujours Hugues Panassier qui parle. Il prend une feuille de papier, y inscrit intégralement la partie du premier trompette et envoie cette feuille à l'autre bout de la table. Sans y jeter un coup d'œil, il écrit ensuite la partie du deuxième trompette, élimine cette feuille, écrit la partie du troisième trompette, puis du premier alto, des autres sax, des trombones, etc., sans jamais consulter ce qu'il a écrit auparavant. L'arrangement ainsi terminé, tout colle parfaitement. Il n'y a pas une note à corriger. De son côté, Jimmy déclare « Je n'utilise pas le piano quand j'écris, car je commencerai à m'évader, à folâtrer avec toutes sortes de choses et à oublier mon arrangement. Ma femme pensait souvent que mon esprit était un peu dérangé lorsque je me réveillais en sifflant au milieu de la nuit et que je me mettais à écrire. » À la question posée par Hugues Panassier lors de son interview, « Quels sont vos orchestres préférés ?» Jimmy répond « Count Basie, Duke Ellington et Tommy Dorsey qui joue ces merveilleux arrangements de Cy Oliver. Mais j'ai un faible pour Count Basie. C'est un plaisir de travailler pour un orchestre pareil. » Nous allons entendre « Super Chief » par l'orchestre de Count Basie enregistré le 21 mai 1940. Les solistes sont Buddy Tate au saxo ténor et Harry Edison à la trompette. On y entend également un trio de trombones bien enlevé et plus loin un quatuor de trompette bouché qui joue un riff intensément swingé. Nous écoutons « Super Chief ». Thank you. Les deux arrangements dont Jimmy Mundy était le plus fier sont Miss Sing et Queer Street, tous deux enregistrés par Count Basie et son orchestre. Miss Sing, enregistré le 5 avril 1939, est un arrangement en deux parties qui primitivement remplissait deux faces de 78 tours. Il s'agit encore d'un thème de 32 mesures avec un pont. Le premier chorus est joué par Lester Young au saxo ténor, soutenu par les trompettes. Le deuxième chorus est joué par Harry Edison à la trompette, soutenu par les sax. Et le troisième chorus est joué par Buddy Tett au saxo ténor, soutenu par les trombones. Vient ensuite une série de chorus riffés par l'ensemble de l'orchestre. Le pont des deux premiers chorus de la série est joué par Dickie Wells au trombone. À la fin de cette série, la musique va décrescendo. C'était la fin de la première face de 78 tours. Pour la deuxième partie, les riffs reprennent en crescendo et Jimmy utilise un superbe effet en changeant de tonalité. C'est Earl Warren qui joue le pont de ce chorus à l'alto. Pour le quatrième chorus d'ensemble, le pont est joué par Basie au piano. Le chorus insiste encore sur le riff pendant 8 mesures et cet ensemble introduit un chorus de trompette bouché par Harry Edison en staccato. Hugues Panassier tenait ce solo pour un des plus originaux dans l'histoire du jazz. L'interprétation se termine par Joe Jones, seul à la batterie, marquant strictement le tempo avec des ponctuations orchestrales. Nous écoutons Miss Sing. Thank you. Queer Street, enregistré le 9 octobre 1945, est un des arrangements les plus originaux. Les deux principaux solistes de cette interprétation sont Count Basie, qui joue deux chorus de blues classique, et Harry Edison, qui prend un chorus de trompette sur le thème écrit par Jimmy Mundy. Ce solo compte parmi les plus beaux qu'Edison ait enregistré. On entend également deux courts passages du ténor par Buddy Tate, et c'est Rodney Richardson qui est à la contrebasse et Shadow Wilson à la batterie. Nous écoutons Queer Street. Terminé avec l'orchestre de Count Basie, nous allons entendre un arrangement qui est un modèle de simplicité. Tune Town Shuffle a été enregistré le 21 mai 1941. Il existe trois prises de ce morceau. Nous écouterons ces trois prises différentes car elles nous permettent de mieux comprendre l'ambiance qui régnait dans les studios d'enregistrement et le travail des musiciens, chacun apportant ses idées. Pour la première prise, il s'agit toujours d'un thème de 32 mesures avec un pont, dont le premier chorus est joué par l'ensemble de l'orchestre, suivi d'un interlude avec la batterie seule, ponctuée par des accords arpégés des sax qui amènent un solo de piano au cours duquel Basie ne joue qu'un demi-chorus sur la phrase A. L'orchestre reprend ensuite pendant 16 mesures sur la phrase A, alternant 4 mesures d'ensemble et 4 mesures en solo par Don Byas au ténor. Puis, au lieu de jouer le pont, l'orchestre change de tonalité et joue à nouveau 16 mesures sur la phrase A. Et pour le dernier chorus, l'orchestre change à nouveau de tonalité, le pont étant joué à l'alto par Tab Smith. Nous écoutons cette première prise de Tune Town Shuffle. Thank you. Dans la deuxième prise, le déroulement est le même jusqu'à l'interlude, mais ensuite il y a un changement. Au lieu d'un demi-chorus, Busy prend un chorus entier avec un fond de sax sur le pont duquel Jimmy Mundy a dû écrire sur place rapidement les accords. Le reste de l'interprétation est inchangé avec les mêmes interventions de Don Byas et le pont du dernier chorus par Tab Smith. Nous écoutons cette deuxième prise de Tune Town Shuffle. Pour la troisième prise, après l'interlude, il y a un nouveau changement. On reprend l'idée première d'un demi-chorus de piano, mais sous forme de dialogue avec le sax ténor. Deux mesures Count Basie, deux mesures Byas, etc. Sauf pour les quatre dernières mesures par Basie seul. La fin d'interprétation est identique. Nous écoutons cette troisième prise de Tune Town Shuffle. We'll be right back. En 1943, Jimmy Mundy est mobilisé. Il participe au débarquement en Sicile et termine la guerre en Italie. De retour aux États-Unis en 1945, il écrit à nouveau des arrangements et surtout beaucoup de musique de film. Il est venu à Paris en 1959 et a été pendant quelque temps directeur musical des studios Barclay. Il est décédé à l'âge de pratiquement 75 ans, le 24 avril 1983. Pour conclure ce portrait de Jimmy Mundy, nous écoutons un dernier arrangement enregistré en 1946 par un orchestre qu'il avait formé à Los Angeles avec des musiciens de la côte ouest pour distraire le personnel des hôpitaux et des bases militaires. Voici un vrai feu d'artifice, Fiesta in Brass. Les solistes sont Willie Smith à l'alto et Lucky Thompson au saxo ténor. Thank you. Voilà, il nous reste finalement quelques enregistrements. Donc, pour Orlines, il y a environ une vingtaine d'arrangements qui ont été enregistrés. Benny Goodman, pour sa part, en a enregistré une bonne quinzaine et Count Basie une trentaine. Voilà ce qui nous reste du travail de Jimmy Mundy. Et c'est pour ça que je tenais à rendre hommage à ce merveilleux musicien.
Parce qu'en fait, on ne le connaissait pas bien.
Je vous ai dit au début, justement, que beaucoup, même des amateurs chevronnés, n'en parlent pas souvent. Ce qui est dommage, parce qu'il compte parmi les 3 ou 4 plus grands arrangeurs.
Merci, Jacques, pour lui et pour nous.
Je vous en prie, c'était un plaisir.
C'était Swing Time 2015, une émission préparée et présentée exceptionnellement par Jacques Rivière. Merci. Redis-le parce que j'avais coupé le micro.
Eh bien, merci à vous. Ça sera un plaisir de revenir une prochaine fois.